Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et vous l'avez suivi effectivement sur France Culture, c'est la première fois qu'un pays claque la porte de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni s'en va pour de bon, ce soir à minuit. Après Londres, nous irons à Bruxelles car la communauté perd un allié de poids. Direction ensuite l'Écosse où le Brexit a réveillé des velléités d'indépendance. Les rapatriés français venus de Wuhan, épicentre du coronavirus chinois, sont attendus près de Marseille aujourd'hui. Leur avion a décollé dans la nuit alors que l'OMS déclare l'urgence internationale. Elle s'inquiète justement des conditions de rapatriement, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, nous analyserons l'annonce d'Édouard Philippe ce matin. Le Premier ministre français est candidat au Havre pour les municipales. Et puis nous nous pencherons sur la liquidation judiciaire du groupe de presse France Antilles. La presse quotidienne régionale va disparaître en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Dans un gros quart d'heure après cette édition, Frédéric Saïs nous rejoindra et il reviendra dans son billet politique sur la dernière séance de François Fillon. Il était hier soir sur France 2. Le départ du Royaume-Uni sera officiel à minuit ce soir. La fin de 47 ans d'une relation ambivalente avec l'Union européenne. Le pays a beaucoup irrité ses partenaires en prônant l'Europe à la carte, en refusant par exemple la zone euro et l'espace Schengen, en négociant aussi des rabais sur le budget. Il reste que ce départ signe tout de même un échec de la construction européenne, une perte d'influence et de rayonnement pour l'Union. Les au revoir ont été poignants, Angélique Bois.
Ce n'est qu'un au revoir, ont chanté dans l'hémicycle les eurodéputés pour saluer le départ de leurs collègues britanniques. Un moment émouvant dans cette séquence douloureuse pour l'Europe. Troisième pays en nombre d'habitants, deuxième économie de l'Union. Le Royaume-Uni laisse un grand vide. Ce n'est pas un pays fondateur, mais il a été central dans la construction européenne. Très actif pour lancer le marché unique et dans l'élargissement aux pays de l'Est après la chute du mur. L'Union perd aussi un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Éric Maurice est le porte-parole de la Fondation Schuman.
Ils ont toujours été un pied dedans, un pied dehors. Et en même temps, c'est vrai que c'est un membre important qui s'en va. C'est un membre important pour la place de l'Europe dans le monde aussi. La position diplomatique, militaire et économique de l'Europe dans le monde dépendait de manière assez importante du Royaume-Uni. Il va falloir se recalibrer maintenant que les Britanniques s'en vont.
Seule vertu pour l'Europe, la difficulté à divorcer a sans doute calmé nombre de partis populistes dans leur velléité de sortir de l'Union et a permis pour l'instant d'éviter un effet domino redouté tout en ressoudant les autres États membres.
Car le divorce aura effectivement été long, laborieux pour le Royaume-Uni qui enclenche ce Brexit 3 ans et demi après un référendum. Boris Johnson, Premier ministre britannique, réunira son Conseil des ministres tout à l'heure à Sunderland dans le nord-est de l'Angleterre, ville symbolique qui avait voté à 61% en faveur du Brexit en 2016. Ce soir ensuite, seuls les pro-Brexit vont faire la fête devant le Parlement à Londres. Le gouvernement n'a pas prévu grand-chose car le pays est toujours divisé. Preuve en est ce reportage dans les rues londoniennes d'Isabelle Labéry.
Les festivités sont tellement discrètes que Liam a même failli passer à côté.
Je ne savais même pas que c'était aujourd'hui, jusqu'à ce que je regarde les infos.
Pour cette mère de famille célibataire aux fins de mois difficiles, le Brexit est pourtant source de stress.
Pour moi, c'est un jour ordinaire. Sauf que je vais pleurer parce que je voulais rester dans l'Union, moi. Surtout, j'ai peur que ma situation économique empire. C'est ça qui m'effraie.
Le parti du Brexit, lui, promet des chants patriotiques et des discours ce soir devant le Parlement.
J'étais contre le Brexit. Donc
Thomas n'ira pas.
Pas de fête pour moi. Je reste chez moi. Honestly, there are better things to do.
Voilà, il a de meilleures choses à faire ce soir, on ne saura pas quoi, alors que Janice, 72 ans, qui a voté Leave en 2016, compte bien, elle, faire la fête.
Oh yes.
À sa façon.
Perhaps have a coffee and
on va sans doute prendre un café, manger un gâteau, avec notre petit groupe habituel.
Together, isn't it?
Le champagne, ce sera pour plus tard.
Because, I mean, obviously,
parce que c'est que le début.
It's only the start.
Ça va prendre encore un an ou plus pour que tout soit finalisé avec les Européens.
Prochain rendez-vous, le 31 décembre, fin théorique de la période de transition.
Car d'ici là, en effet, Londres doit encore négocier ses futures relations commerciales avec Bruxelles, négociations qui s'annoncent houleuses tant les avis divergent. En Irlande du Nord et en Écosse, par exemple, où l'on avait majoritairement voté contre le Brexit en 2016, les fissures se creusent. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Clara.
Vous étiez en Écosse cette semaine pour France Culture, Annabelle. Le Brexit y a relancé le débat sur l'indépendance.
Et oui, la question semblait avoir été tranchée dans les urnes il y a 6 ans, lors du dernier référendum en 2014. Mais en effet, depuis, le Brexit est passé par là. Et il a donné un nouveau souffle aux partisans de l'indépendance. Les Écossais qui ont voté très majoritairement pour rester dans l'Union européenne, à plus de 62%, ont le sentiment d'avoir été sortis de l'Union européenne contre leur gré. Nous sommes sur le point de perdre notre appartenance à l'Europe et tous les droits qui vont avec, a déclaré cette semaine Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, chef de file du Scottish National Party, est le seul moyen réaliste pour l'Écosse de revenir au cœur de l'Europe et de devenir indépendante. Nicola Sturgeon dit vouloir organiser un nouveau référendum sur l'indépendance en 2020. Mais il faut l'autorisation de Londres pour organiser un tel scrutin. Et Boris Johnson lui a déjà refusé la semaine dernière. Alors une nouvelle demande a été officiellement déposée mercredi par le gouvernement de Nicola Sturgeon. Mais l'idée fait petit à petit son chemin et les marches et les manifestations pour réclamer un second référendum en Écosse se multiplient. Les sondages donnent aujourd'hui 50-50 pour les partisans et les opposants à l'indépendance. Ce matin même, 51% pour les partisans. Vous voyez, les choses risquent évidemment d'évoluer. Cela dépendra des négociations à venir. L'Écosse va-t-elle y perdre? Et surtout, l'Angleterre saura-t-elle défendre les intérêts de l'Écosse ou bien ceux de l'Irlande du Nord, où les désirs de réunification des deux Irlandes ont été ravivés également? Avec le Brexit, eh bien, l'unité du Royaume est clairement à risque. Et demain matin, le drapeau européen flottera toujours à Édimbourg. C'est un signe.
Merci beaucoup Annabelle. Annabelle Grelier en direct de Londres ce matin. Nous vous retrouvons à partir de 17h ce soir pour le grand reportage de la rédaction. Brexit, le compte à rebours est lancé. Vue d'Écosse donc avec vous Annabelle. Vue de Londres avec Antoine Gignot. Vue de Calais également avec Thomas Larabie. Un grand reportage réalisé par Annie Brault et présenté par Aurélie Kiefer. D'ici là, nous reviendrons également à Londres au siège de la BBC avec Guillaume Erner et ses invités après ce journal. Car à 8h07 sur France Culture, nous poursuivons cette édition avec cette arrivée attendue aujourd'hui. Près de 200 Français sont rapatriés de Chine. Ils habitent Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus chinois, et ils sont actuellement dans un avion militaire qui les ramène en France. Ces ressortissants seront accueillis près de Marseille, dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, et ils seront mis en quarantaine lors des 14 prochains jours. Par ailleurs, sachez qu'il y a actuellement 6 cas déclarés sur le sol français, mais déjà près de 10 000 en Chine. 212 Chinois sont décédés à cause de cette contagion de ce virus. L'OMS estime maintenant que l'épidémie est une urgence sanitaire de portée internationale. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète en fait de la propagation de ce virus à l'étranger et pas forcément en Chine, Jérémy Lanche.
Si la Chine n'avait pas réagi comme elle l'a fait, il y aurait beaucoup plus de malades dans le monde. C'est la conviction du patron de l'OMS. Tedros Ghebreyesus l'assure, la déclaration d'urgence de portée mondiale n'est pas un vote de défiance contre la Chine, c'est même tout l'inverse.
La raison principale pour laquelle je déclare une urgence internationale, ce n'est pas à cause de ce qui se passe en Chine, mais de ce qui se passe dans d'autres pays. Notre plus grande crainte, c'est que le virus se propage dans des pays avec des systèmes de santé bien plus fragiles.
L'action de Pékin doit donc être saluée, mais celle d'autres pays pose question, dit l'OMS. L'agence s'oppose à toute restriction de voyage pour les personnes ou les marchandises. Le français Didier Houssin, qui préside le comité d'urgence, est plus que sceptique sur les évacuations d'étrangers de Wuhan.
Certains pays peuvent procéder à des évacuations parce qu'ils en ont les moyens logistiques. Ça prouve aussi la confiance qu'ils ont dans leur capacité d'éviter une transmission chez eux. Mais clairement, tous les pays ne peuvent pas faire ça.
L'OMS distribue les bons et les mauvais points presque exclusivement au bénéfice de la Chine. Mais face aux polémiques, le directeur de l'agence insiste. Le temps n'est pas aux peurs et à la stigmatisation, dit-il, mais aux faits et à la solidarité.
Et quand certains rapatrient leurs ressortissants présents en Chine et que des compagnies aériennes suspendent leurs trajets, Pékin a décidé, dans l'autre sens, de rapatrier les habitants de Wuhan qui se trouvent en ce moment à l'étranger et qui souhaitent rentrer chez eux. Cette annonce à présent du Premier ministre français dans la presse régionale ce matin. Édouard Philippe est candidat à la mairie du Havre. Il le dit dans les colonnes de Paris Normandie et il doit le confirmer dans les minutes qui viennent au micro de nos confrères de France Bleu Normandie. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Édouard Philippe sera même tête de liste pour les municipales dans moins de 2 mois.
Oui, candidat et tête de liste. Édouard Philippe lève l'ambiguïté ce matin dans le quotidien Paris Normandie et sur France Bleu Haute-Normandie d'ici quelques instants. Il avait déclaré il y a quelques mois que s'il devait être candidat, ce serait au Havre et nulle part ailleurs. Il avait notamment employé cette formule « mes tripes ont un goût d'eau salée ». Cette candidature est pour lui une manière de se relégitimer. C'est capital, explique-t-il ce matin, en démocratie. Le fondement de la légitimité, c'est l'élection. Et il y a une forme de quitte ou double pour le Premier ministre, de stop ou encore, car sa candidature va nécessairement nationaliser le scrutin municipal au Havre. S'il perd, il lui sera très difficile de conserver son poste à Matignon. En cela, il y a une part de risque dans sa décision. Le Havre a été un bastion communiste jusqu'en 95. Les communistes y sont encore très influents et la contestation contre la réforme des retraites s'y est révélée particulièrement musclé. S'il gagne, en revanche, ce sera pour lui comme une extrême onction républicaine. Il apparaîtra comme l'un des hommes clés du pouvoir en place et il deviendra pratiquement intouchable. Ça pourrait même lui donner une légitimité concurrente de celle du président de la République, d'autant plus forte qu'elle sera plus récente. À ce stade, il est le favori de cette élection. Un sondage en octobre dernier le donnait vainqueur au premier tour de scrutin. La donne a sans doute un peu changé avec le conflit sur les retraites, mais il conserve malgré tout cette position de favori.
Et justement Stéphane, si Édouard Philippe est élu fin mars, que fera-t-il ?
Il reste à Matignon. Il assure que son ambition est de redevenir maire du Havre, mais pas tout de suite. Tant que le président de la République lui fait confiance, il reste à Matignon. Servir son pays est une mission, est un honneur, se justifie-t-il ce matin. C'est donc l'actuel maire du Havre, Jean-Baptiste Gastine, qui conservera le fauteuil de maire bien au chaud en attendant qu'Édouard Philippe revienne, si bien sûr les Havrais lui renouvellent leur confiance les 15 et 22 mars prochains.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Les municipales auront donc lieu dans moins de 2 mois et à l'approche des élections, la circulaire Castaner est toujours contestée. Elle limite, je vous le rappelle, le nuançage des listes. 6 recours en référé ont été déposés devant le Conseil d'État. Il rendra sa décision en fin de matinée tout à l'heure. Tout à l'heure également, à midi, les amendements au projet de loi sur les retraites devront être déposés par les députés. Cette réforme a provoqué une bataille dans les rues, bataille également annoncée à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à quelques heures de l'expiration des délais, plus de 17 000 amendements ont déjà été déposés. La très grande majorité d'entre eux émanent de la France insoumise, Sophie Delpan.
Noyer le débat sous une avalanche d'amendements. Une stratégie revendiquée par Jean-Luc Mélenchon qui déclare sur Twitter assumer de faire de l'obstruction. Tous ces amendements déposés par les députés insoumis commencent par la même formule. Comme la majorité des Français, nous nous opposons totalement à l'ensemble de ce projet de loi, selon les premiers mots de ces milliers de textes. Éric Coquerel, député La France Insoumise, revendique cette méthode.
Faire en sorte de bloquer, de ralentir au maximum, si possible jusqu'au retrait, le passage en force de cette réforme dont on sait qu'elle est minoritaire dans le pays.
Ces amendements sont construits comment ?
Donc là, l'idée, c'est qu'on fait des amendements à chaque alinéa et chaque député dépose des amendements identiques. C'est la seule stratégie du rapport de force qu'entend le gouvernement. Aucun autre rôle de député dans les tranchées de l'Assemblée nationale. On fait notre ligne Maginot à nous, voilà, en espérant que le mouvement social, lui, arrive à se mobiliser plus encore pour obtenir le retrait de cette loi.
À propos du déluge d'amendements, on est encore loin du record absolu sous la Ve République, record détenu par le projet de loi de privatisation de GDF en 2006 avec plus de 130 000 amendements. Mais il s'agit du montant total déposé jusqu'à l'adoption du texte. Il s'agit là du premier jour avant l'examen en commission et le ton du futur débat parlementaire est déjà donné.
Examen en commission qui débutera lundi prochain, alors que le financement du futur projet de réforme des retraites n'est toujours pas acté. La conférence à ce propos a débuté hier. Syndicats et patronats ont maintenant 3 mois pour trouver 12 milliards d'euros. Le cardinal Barbarin a été relaxé en appel pour ses silences sur les abus sexuels d'un prêtre du diocèse de Lyon. Il annonce qu'il va de nouveau remettre sa démission au pape François. Après sa condamnation en première instance, Philippe Barbarin avait déjà proposé cette démission. Elle avait alors été refusée par le pape dans l'attente de la décision en appel. C'est un coup dur pour l'information aux Antilles. Après plus de 50 ans d'existence, le groupe France Antilles est placé en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité. La presse quotidienne régionale va donc disparaître en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ce sera effectif dès ce week-end avec de grosses conséquences, Éric Chavreau.
C'est d'abord un cataclysme social, comme l'écrivait en une France Antilles lui-même, pressentant la funeste nouvelle, 235 salariés au chômage, avec pour unique consolation peut-être une ultime parution autorisée samedi. La conclusion d'une page de l'histoire de la presse française, dont les recettes serviront aussi aux salariés pour abonder le plan social. Une seule offre de reprise demeurait par l'actionnaire actuel et son montage financier n'a pas abouti malgré un engagement fort de l'État et d'entrepreneurs locaux. Il manquait un peu plus d'un million d'euros alors que le groupe faisait face à des pertes de 500 000 euros par mois. Dans un communiqué commun, les ministres de la Culture et des Outre-mer regrettent une mobilisation insuffisante et promettent de veiller à l'accompagnement social. La présidente du conseil départemental de Guadeloupe, Josette Borel-Lincertain, considère, elle, cet aboutissement comme le signe d'un abandon. Cette disparition met également en danger pour beaucoup la pluralité de l'information. Le représentant des salariés craint un développement des fausses informations par le biais des réseaux sociaux, quand le président de l'Alliance de la presse d'information générale, Jean-Michel Baillet, y voit, je cite, « une horrible nouvelle pour la presse et la démocratie, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, où 1800 titres régionaux ont déjà disparu ».
Martinique, Guadeloupe et Guyane, des territoires français désormais privés de quotidien régional. C'est un article que vous pouvez retrouver également sur franceculture.fr. Le temps sera couvert ce vendredi sur l'Hexagone, pluvieux même sur une bande qui va de l'Occitanie jusqu'au Grand Est. Le soleil ne devrait se montrer que près de la Méditerranée aujourd'hui. Il fait ce matin 8 degrés à Lyon, 10 à Lille, 12 degrés à Paris, Limoges, Marseille, 14 sur la Corse.